Brigitte Yoda.
Madame, Monsieur, bonsoir. À la une de l'actualité, au Burkina Faso, le ministère de la Santé appelle à la vigilance face à la fièvre de Marburg et le choléra. Déclaration faite dans un communiqué ce lundi. En Afghanistan, des scènes de panique enregistrées à l'aéroport de Kaboul. Des populations tentent de fuir le pays depuis la prise du pouvoir par les talibans. Les autorités occidentales, elles, se mobilisent pour évacuer leurs ressortissants et leurs diplomates. Séisme en Haïti, le bilan humain ne fait que s'alourdir. Près de 1300 personnes sont décédées. Et puis présidentiel en Zambie, le chef de l'opposition Hakainde Hichilema, vainqueur du scrutin, le président sortant Edgar Lungu a reconnu sa défaite et félicité son rival. Voilà pour le sommaire, bienvenue. Pour commencer, face à l'apparition de la fièvre de Marburg le 9 août dernier en Guinée et le choléra le 10 août au Niger, le ministère burkinabé de la Santé appelle les populations à la vigilance afin d'éviter toute propagation de ces maladies au Burkina Faso. Dans un communiqué, le ministère de la Santé a indiqué que la maladie de Marburg, causée par un virus, se transmet à l'homme par des chauves-souris. Elle se propage chez les humains par contact direct avec les fluides corporels des personnes touchées ou avec les surfaces et les matériaux infectés. La maladie commence de façon soudaine avec une forte fièvre, des céphalées intenses, des malaises et parfois des hémorragies dans les selles. Quant au choléra, il s'agit d'une maladie aiguë qui sévit depuis plusieurs années en Afrique et qui se caractérise par des diarrhées liquides profuses provoquées par le vibro-choléra. Elle est transmise essentiellement par voie oro-fécale en consommant l'eau ou des aliments contaminés. À cet effet, le ministère invite les populations à consommer de l'eau potable ou bouillie, à laver proprement les fruits et légumes avant de les consommer. Il exhorte également les populations à éviter l'automédication et à se rendre dans une formation sanitaire en cas de doute. La suite de l'actualité nationale en prélude aux assises nationales sur la réconciliation. L'arrondissement 1 de la commune de Ouagadougou a tenu vendredi dernier ses assises communales sur la réconciliation. Objectif, réunir les avis des ressortissants de cet arrondissement sur la question et de faire des propositions aux autorités étatiques. Elisabeth Yanogo et Ibrahim Baili.
L'arrondissement numéro 1 apporte sa touche à la réconciliation nationale. À cet effet, des assises communales se sont tenues pendant lesquelles les participants ont fait des propositions afin de faciliter ce processus de réconciliation. Adamo Kafando, premier adjoint au maire.
L'arrondissement 1, à travers ces assises, propose que, au niveau de la gestion du pays, qu'il y ait une franchise politique, que les acteurs politiques puissent se parler en face et se dire la vérité quant à ce qu'ils veulent. Que les populations ne soient pas instrumentalisées à chaque fois qu'un problème politique est posé, afin donc que nous puissions éviter les désagréments que nous avons eus de par le passé.
Au sortir de ces assises, il ressort que les hommes politiques sont les vecteurs de la division. Rodrigue Dipama pense qu'il faut une réconciliation sincère et cela passe d'abord par les hommes politiques.
Aujourd'hui, nous pensons que la réconciliation nationale est une chose qu'on doit vraiment tenir à cœur pour que les Burkinabés puissent s'entendre, puisque nous savons aussi que quand un pays, il n'y a pas la réconciliation, c'est un facteur même pour les terroristes de pouvoir s'attaquer à ces pays-là. Demandons aux politiciens d'être vraiment sincères avec ce sujet et de travailler en tout cas à ce que les Burkinabés puissent s'unir.
Ces assises ont conclu que la réconciliation nationale se doit d'être inclusive, d'où l'implication des exilés politiques. Le secrétaire général de l'arrondissement de rassurer que la préoccupation de la population sera transmise aux autorités compétentes.
Et la crise alimentaire menace la région de l'Est. En effet, à cause de l'insécurité, le spectre des terres abandonnées plane sur la région et ce, malgré la régularité des pluies et l'installation de la campagne agricole. Guy-Michel Bologie.
La donne pluviométrique diffère d'une province à l'autre, mais rien d'alarmant. Philippe Yonli, le président de la Chambre régionale d'agriculture de l'Est.
Cette année, pour dire vrai, la saison s'est réellement installée fin juillet, début août. Bon, mais il y a des exceptions. Si on prend la province de la Nyanya, comparativement aux autres années, eux, ils sont vraiment en avance par rapport aux autres. Si je prends le cas de Kompienga, où chaque année, c'est la province au niveau de la région qui recevait vraiment les premières pluies. Mais cette année, la saison s'est installée là-bas fin juillet, début août. Mais quand j'ai fait le tour des provinces, en tout cas, il y a l'espoir.
Espoir sous condition, mais espoir tout de même.
Présentement, presque chaque deux jours, vraiment, il y a la pluie. Notre espoir vraiment tourné vers le Dieu céleste. Si vraiment les pluies peuvent aller jusqu'en octobre, je crois qu'il y a eu plus de peur que de mal. En tout cas, il y aura à manger.
Espoir, quand bien même, il faut signaler une carence humaine et la probabilité d'une crise alimentaire en lien avec la crise sécuritaire.
Cette année, nous sommes vraiment confrontés à une grosse difficulté. Il n'y a pas vraiment les engrais. Un producteur, quand il produit et que vraiment il n'y a pas l'engrais, ça coince à quelque part.
Problème, l'année dernière déjà, on parlait de ça. Le fait que beaucoup de terres cultivables ont été désertées pour cause d'insécurité. Comment se présente la situation cette année?
Je crois que ce problème-là est connu de tous. Hein. Il y a des villages entiers où vraiment à cause de l'insécurité, ils sont obligés vraiment d'aller là où vraiment ils vont être en sécurité. Donc c'est pour dire que au niveau de la région, nous suivons tous vraiment ça impuissamment. Il y a une crise vraiment alimentaire qui s'annonce vraiment à l'horizon.
Guy Michel, Bolouvi, Fadangourma, Radio Omega.
Et puis l'Union nationale des rogats du Burkina a tenu du 12 au 14 août dernier les 72 heures du pasteur et de l'agro-pasteur à Bitou dans la province du Boulgou, placée sous le thème « Contribution des réseaux de promotion de l'élevage au débat sur l'avenir du pastoralisme face à l'insécurité et son impact en marge de l'AG des rogats ». Trois jours d'échanges entre éleveurs venus du Burkina, du Togo, du Bénin, du Ghana, du Niger et du Tchad. Les détails avec Yaya Diomandé.
Le secteur de l'élevage constitue le troisième poste d'exportation au Burkina avec plus de 26% des exportations du pays. Mais ce secteur est menacé par les fléaux du terrorisme et du Covid-19 qui mettent à risque la transhumance. Afin de trouver des solutions à ces difficultés, les leaders d'éleveurs pasteurs se sont réunis à Bitou pour échanger autour du thème « Contribution des réseaux de promotion de l'élevage au débat sur l'avenir du pastoralisme face à l'insécurité et son impact en marche de l'Assemblée générale des rougas ». Amidou Bandé est le rouga national.
Les problèmes de sécurité avec les problèmes de coronavirus, là, il a fatigué les éleveurs. Les éleveurs, il est trop de difficultés parce que partout, tu ne peux pas aller librement. Tout que tu n'es pas, c'est le problème.
Ce séminaire a vu naître le bureau exécutif d'une fêtière sous-régionale des rougas de l'espace CDAO. Présent à la clôture des activités, le ministre en charge de l'élevage, Modeste Yerbanga, salue l'établissement de cette nouvelle organisation sous-régionale.
Vous savez, le contexte de sécurité actuel nous amène à repenser quel type de pastoralisme envisager. C'est quand même important pour eux de s'organiser dans la sous-région pour voir comment ensemble ils vont lutter contre les tracasseries inhérentes à la transhumance et également contre l'insécurité grandissante dont ils sont souvent victimes à tort ou à raison.
À la sortie de cette plateforme d'échange entre éleveurs venus du Burkina et de plusieurs pays de la sous-région, des décisions ont été prises afin de faciliter la pratique de l'élevage et de la transhumance dans un environnement d'insécurité et de Covid-19. Yaya Diomandé, Bitou, pour Radio Omega.
L'actualité internationale en Afghanistan, alors que les talibans s'installent progressivement dans la capitale afghane. Après leur arrivée dimanche, les autorités occidentales se mobilisent pour évacuer leurs ressortissants et leurs diplomates. Des scènes de panique ont été observées à l'aéroport de Kaboul alors que la population tente de fuir les talibans. Et au plan international, les réactions se multiplient. Plus de 60 pays ont publié un communiqué commun dans lequel ils déclarent que les Afghans et les ressortissants d'autres pays désireux de quitter l'Afghanistan doivent être autorisés à le faire, soulignant que les aéroports et les points de passage frontaliers doivent rester ouverts. La Russie, de son côté, affiche une certaine confiance. Elle explique avoir reçu des garanties de la part des talibans. Elle n'a pas encore évacué son ambassade et une rencontre est prévue demain mardi 17 août entre talibans et l'ambassadeur russe à Kaboul. En Haïti, le bilan provisoire du séisme de samedi dernier s'est encore alourdi. Selon les services de protection civile du pays, le bilan humain du tremblement de terre a fait près de 1300 morts et 5700 blessés. Il y a 11 ans, un autre tremblement de terre avait ravagé l'île caribéenne, occasionnant plus de 230 000 morts, des catastrophes qui s'expliquent notamment par la géologie du pays. En Zambie, le candidat d'opposition, Aikande Ichilema, remporte la présidentielle. Il a battu Edgar Lungu avec 2,8 millions de voix contre 1,8 pour le président sortant. C'était la troisième fois que cet opposant affrontait son rival dans les urnes. En 2016, il avait perdu de seulement 100 000 voix. Dans un discours diffusé à la radio, le président sortant a reconnu sa défaite et félicité son adversaire. Je veux féliciter mon frère, Aikande Ichilema, président élu qui devient le 7e président de la République, a-t-il précisé. En Côte d'Ivoire, depuis l'annonce samedi dernier d'un cas de la maladie à virus Ebola, les services de santé et les acteurs intervenants dans les épidémies sont mobilisés. La riposte est en cours et se renforce. Et hier dimanche, le ministère de la Santé a élaboré avec les partenaires comme l'OMS, la Banque mondiale, l'UNICEF, la Croix-Rouge, un plan de prévention. Il sera déployé dès demain mardi dans tout le pays. Toujours en Côte d'Ivoire, Laurent Gbagbo a été exclu du FPI, le camp du Front populaire ivoirien, présidé par Pascal Affine-Guessant, a entériné samedi la rupture avec Laurent Gbagbo à la suite de sa décision, celle de créer un autre parti à l'issue d'une session du comité central. Pour Pascal Affine-Guessant, l'ancien président ivoirien veut créer son parti parce que le FPI lui impose la démocratie, lui refuse l'idolâtrie et le culte de la personnalité. Écoutez Pascal Affine-Guessant au micro de nos confrères de RFI.
Gbagbo a choisi la rupture. C'est son choix. Nous ne l'avons pas voulu. Laurent Gbagbo a décidé de m'arracher le parti sans même chercher à m'entendre. Les Ivoiriens attendaient le retour de l'homme de paix et du démocrate. Ils découvraient mon âme. Il se croit propriétaire du FPI, sa chose dont il peut disposer à sa guise. Les cadres du parti sont les obligés. Le FPI n'est pas une chose. Il est vrai que l'histoire du FPI est inséparable de la lutte et du parcours politique de Laurent Gbagbo. Mais c'est une grave erreur politique de réduire le parti à cette dimension. Laurent Gbagbo ne s'est pas fait lui-même. C'est nous tous qui l'avons fait. Mes désaccords avec lui sur certaines questions peuvent-ils être considérés comme une marque d'ingratitude? Dans ce domaine, c'est l'homme qui fait l'homme, comme disent les Ivoiriens. Nous l'avons fait, en retour, il nous a fait. Il nous doit, nous lui devons. Aujourd'hui, Laurent Gbagbo quitte le FPI parce que le parti lui oppose et lui impose la démocratie. Le comité central qui vient de se réunir a entériné la rupture. Il me met en mission désormais pour mener ce combat de la renaissance et de la modernisation du FPI.
À l'instant, Pascal Affine-Guessant du Front populaire ivoirien sur l'exclusion de Laurent Gbagbo. Omega Sport. Hugues Fabrice Zango, médaillé de bronze au triple saut homme des Jeux Olympiques de Tokyo, était hier à Kudugu, la terre qu'il a vue naître. Il est allé avec sa médaille. Il a demandé des bénédictions pour faire mieux lors des prochains Jeux Olympiques. Compte rendu, Sabuna Ouedraogo.
Le médaillé de Tokyo a présenté sa distinction aux autorités et aux populations heureuses de l'accueillir. Elles ont tenu à cette organisation pour témoigner à Hugues Zango la reconnaissance de la région du Centre-Ouest pour l'honneur fait au Burkina Faso avec cette première médaille olympique. Irène Koulibaly, gouverneur du Centre-Ouest.
Oui, c'est avec une joie immense que nous avons accueilli ce matin Hugues Fabrice Zango après l'exploit qu'il a réalisé aux Jeux Olympiques. Et je voudrais lui dire toute la fierté que nous ressentons aujourd'hui.
Cette fierté, justement, les organisateurs de cet hommage veulent qu'elle demeure à jamais. Ainsi, ils ont demandé à la commune de rebaptiser le stade municipal au nom de Hugues Fabrice Zango. La municipalité a promis se pencher sur cette doléance. Mokhtar Zongo, maire de Kudugu.
Et cela relève de la compétence du conseil municipal. Je me ferai le devoir de porter cette recommandation au conseil qui va apprécier.
Il est vrai que Hugues Zango a déjà reçu des hommages depuis son retour de Tokyo, mais celui de Kudugu a un goût particulier.
Vraiment content de voir toute cette mobilisation et forcément venant des miens, c'est encore plus frappant, c'est encore plus marquant.
De nombreux présents en nature et en espèces ont été offerts à Hugues Zango, dont une parcelle. L'athlète a promis de donner le meilleur de lui-même pour décrocher la médaille d'or lors des prochains Jeux Olympiques de Paris 2024. Sabuna Ouedraogo, Kudugu, Radio Omega.
C'est ici que prend fin ce journal réalisé par Edwige Tiendre-Beugo. Merci de votre fidélité et très bonne suite de programme sur Radio Omega.
Radio Omega, l'info en direct.